L'être humain est en questionnement. Où donc est Dieu dans ces moments? Que fait-il? Cette question demeure même si on a décidé d'exclure Dieu de notre système. Et on serait en droit aussi de poser la question à nos amis athées. Où donc est l'athéisme quand on souffre? Nous ferons tous face à la souffrance dans nos vies, que l'on soit des chrétiens ou que l'on ne le soit pas. Personne n'est épargné. La souffrance a plusieurs facettes, plusieurs noms, et j'en ferai une petite liste. Désillusion, manque, absence, arrêt, insatisfaction, doute, écrasement, ennui, peur, deuil. Face à ces situations, nous sommes bien souvent seuls. Seuls face à nous-mêmes. Sur quoi déboucheront ces situations? Que pouvons-nous faire? Que devons-nous attendre de Dieu, si nous devons attendre quelque chose? J'aimerais que nous puissions découvrir ce que la Bible, ce que nous croyons être comme la parole de Dieu, a à nous apprendre sur ce sujet ce matin. Et je vous invite à lire avec moi Matthieu 14, versets 22 à 36. Matthieu 14, versets 22, j'irai jusqu'à 36. C'est dans la première partie du Nouveau Testament, le premier livre du Nouveau Testament. Matthieu 14, versets 22 à 36. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il ordonne et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » Aussitôt, Jésus étendit la main et le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus et dire, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézaret. Les gens de ce lieu ayant reconnu Jésus envoyèrent des messagers dans tous les environs et on lui amena tous les malades. Ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement, et tous ceux qui le touchaient furent guéris. Je ne sais pas si vous vous dites comme Luc Ferry que la foi chrétienne n'a rien à gagner, ou plutôt tout à perdre, à lier son sort à celui d'événements surnaturels dont la crédibilité est chaque jour plus fragile, et qu'une explication de la souffrance qui partirait d'un miracle si incroyable que la marche sur les eaux de Jésus vous paraît immédiatement disqualifiant pour expliquer la souffrance. Mais j'aimerais vous proposer que justement, elle est à mon avis un point de départ, et juste comme hypothèse pour vous aider peut-être sur ce chemin de la foi. Si Dieu, le Créateur, s'est fait homme, comme le confessent les chrétiens, alors tout devient possible. Même ce récit. D'ailleurs, je vous rappelle qu'il a été écrit par des témoins oculaires. Notre texte se trouve dans le récit de Matthieu, un ancien collecteur d'impôts. Toute sa bonne nouvelle est de raconter que l'histoire continue. L'histoire continue. Dieu accomplit son plan et Jésus, cette personne, est en train d'accomplir une attente longtemps attendue chez les Juifs. Ainsi, Jésus est en train de constituer un peuple. C'est le contexte de notre passage. D'ailleurs, même Jésus, dans sa propre famille, suscitait l'incrédulité. C'est chapitre 13, versets 53 à 58. Jean-Baptiste, celui qui a annoncé, qui a été comme le chemin préparatoire à Jésus, lui aussi est rejeté par sa propre famille. Il est mis à mort par Hérode. C'est le texte qui précède. Puis le miracle de la multiplication des pains qui lui aussi précède notre texte, nous parle de ce pain que Jésus donne. Rappel de ce pain, pain du ciel dont avaient été nourris les Israélites dans le désert. D'ailleurs, ce miracle est intimement lié au nôtre. D'ailleurs, notre texte commence par « aussitôt ». Aussitôt, Jésus renvoie la foule, car sans doute, il veut peut-être éviter que la foule fasse une révolte. Jésus serait peut-être le nouveau messie politique chez elle, et c'est Jean qui nous donne cette indication. Jésus sans doute renvoie la foule à cause de cela. Mais pourquoi Jésus renvoie ses disciples et les oblige à monter dans une barque? Notre texte dit « oblige ». Sans doute plusieurs raisons à cela, mais à ce stade, rien n'est très clair. Il semble que Jésus veuille reprendre son projet du verset 13, qui est de prier, qui avait été interrompu suite à la venue de cette foule nombreuse. Jésus monte sur la montagne, prie seul suite au décès de Jean-Baptiste, sans doute une occasion pour lui de faire le deuil, retrouver la communion avec son Père. Loin peut-être des images de Jésus qui serait insensible à la souffrance. Jésus est sans doute un homme en proie à la tristesse dans ces moments, en proie à la souffrance face à la mort de celui qui a préparé son chemin. Et Jésus sait très bien que cette mort fait écho à une autre. Et il le sait. Il est en marche pour celle-ci. Jésus connaît quelque part une petite tempête personnelle intérieure, même si le texte ne nous en parle pas beaucoup. Ou à demi-mot seulement. Dans le même temps, nous dit le texte, à des centaines de mètres, les disciples combattent un vent contraire. Seul. Littéralement, le bateau est harcelé par les vagues, de sorte qu'ils sont incapables de le manœuvrer et d'avancer. Jésus les a obligés à prendre le bateau et eux maintenant, ils sont seuls face à cette nature déchaînée. Les Romains avaient découpé la nuit en quatre veilles de la nuit et là, Jésus les voit en train de galérer entre la troisième et la sixième heure du matin. La situation que les disciples sont en train de vivre, elle est tragique. Ils bataillent avec les flots depuis une grande partie de la nuit. Et bien qu'ils soient épuisés, sans doute humides et froids, l'accent de notre texte se concentre sur la peur, la panique. Ils craignaient sans doute déjà pour leur vie, mais l'idée d'un spectre marchant sur les eaux, parmi les vagues dans l'obscurité, alors là c'était terrible, d'autant que la mer était, dans la croyance populaire, le lieu des puissances du mal. Cette scène décrit symboliquement, avec force, l'expérience humaine aux prises avec le mal. La peur des disciples est semblable à la peur de tous ceux qui sont menacés face à l'insécurité du lendemain. J'aimerais vous partager l'histoire de Louis. Pour moi, c'est un modèle du genre. Sa vie est pleine de ces tempêtes. À l'âge de 2 ans, vous savez, il est né en retard. Il est né avec son frère jumeau, sauf qu'il est né en retard. Et quand il est sorti, il était bleu. Il était en train de s'étouffer. Une sage-femme, heureusement, a eu l'énergie de le secourir. Ce retard a failli lui coûter la vie. À l'âge de 10 ans, lui aussi se baignait. Lui aussi se baignait sans savoir nager. Il s'est laissé emporter et il a été sauvé. Il a été sauvé par, curieusement, un autre enfant qui était celui qu'il détestait le plus dans son école. Sans parler de l'accident terrible qu'il a eu à l'âge de 25 ans où il a fallu plusieurs mois pour se rétablir. Mais Louis, il a vécu une autre tempête dans sa vie. C'est une histoire vraie. Et ça sera l'expérience la plus terrible de sa vie. Parce qu'à l'âge de 28 ans, Louis commence à avoir double et mastique la nourriture. Difficilement. Contraint d'aller à l'hôpital, pour soi-disant une petite semaine, il n'en ressortira que des mois plus tard. Et il séjournera des années. Son état général se dégrade et un de ses enfants va lui dire « Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'es plus le même. Tu louches, ta bouche reste entrouverte, tu as une paupière qui tombe, tu parles du nez. » Et un jour, le diagnostic terrible tombe. Vous êtes atteint, Louis, d'une myasthénie, une maladie génétique qui est au nerf moteur, ce que la myopathie est aux muscles. Elle dégrade plus ou moins rapidement vos nerfs, y compris des voies respiratoires, et entraînant la mort par étouffement. Généralement, juste un mauvais rhume, une grippe, finit par vous empêcher de tousser, cracher, et donc vous mourrez par étouffement. La joie avait ses places à la peine, à l'inquiétude et à la détresse. Louis endurera pendant 27 ans cette maladie. Cette maladie invalidante, et il en appellera à tout, aux médecins, aux guérisseurs qui essaieront d'être en transe devant lui, aux prêtres qui, lui nous le raconte, ne viendra jamais, à des pasteurs qui essayeront de lui dire « Lève-toi et marche !» En s'y reprenant à plusieurs reprises et le voyant tomber, lui diront « Ah, l'incrédulité !» Même si la souffrance fut terrible pour cet homme, que penser de celle qui a atteint sa femme, qui supporta pendant des années cette souffrance? Vivre avec un malade. Ce Louis est bien connu de notre assemblée. Il n'est pas un homme d'une autre époque, il en a même été parmi les responsables à une époque. Sa vie n'est pas une histoire inventée, mais une histoire bien réelle. Proche, je suis certain, de l'expérience de certains parmi nous. Comme ses disciples qui sont débattus pendant presque toute une nuit, parfois nous aussi, nous débattons terriblement avec des souffrances. Elles nous affectent comme les répliques de la mort qui un jour nous affectera tous. Chez certains, cette souffrance se vit dans l'absence de ce qu'elle considère comme ce qui devrait être, l'absence d'un être qui nous aime comme un père ou une mère normale, l'absence d'un être aimé tant attendu, époux, épouse, l'absence d'un être à aimer tant attendu aussi, parfois, comme un enfant. Ces souffrances découvrent la vie sous la lumière de l'absence, du manque, de l'insatisfaction. Elle perturbe notre être intérieur. Loin d'imaginer que cette situation est terminée, elle existe encore aujourd'hui. Ainsi, la souffrance nous atteint tous un jour. Mais quelque chose de troublant apparaît dans notre texte. Même si cette tempête n'est pas causée par Jésus, puisqu'elle est plutôt les conséquences du mal, pourtant les disciples n'en sont pas épargnés. Jésus les y a même obligés d'y aller. Jésus n'a pas épargné ses propres disciples. Jésus n'a jamais promis qu'il nous épargnerait de la souffrance humaine. Il n'a jamais indiqué que le suivre nous épargnerait de toutes les détresses, de toutes les absences. Bien que la tempête soit plutôt le problème du mal, Jésus les laisse seuls dans cette situation. Cette tempête que Jésus n'épargne pas ses disciples les pousse vers un retranchement, comme un rappel. Bien souvent, quand nous sommes remplis de bénédictions, entre guillemets, matérielles, de richesses, nous avons si souvent tendance à oublier Dieu. Quand notre situation est florissante, nous avons aussi tendance parfois à être ingrats. Et nous avons si souvent besoin de l'épreuve pour nous souvenir de Dieu. Ainsi, l'épreuve est souvent ce qui déclenche le désir de nous rapprocher de Dieu. Que de gens se sont convertis à la suite d'une maladie, d'un deuil, d'une déception. Combien plus sont tirés d'un malheur, une bénédiction. Je partageais cela avec les jeunes vendredi soir. Beaucoup d'entre nous avons expérimenté ces sentiments. Comme C.S. Lewis l'a bien dit, Dieu parle dans nos plaisirs, mais il crie dans nos souffrances. C'est son porte-voix dans un monde sourd. Vous vous rappelez de Louis, c'est dans les heures les plus sombres de sa vie qu'il s'est posé la question de Dieu, qu'il s'est intéressé à son avenir. Mais où est Dieu pendant tout ce temps? Est-il absent? C'est la deuxième partie. On pourrait poser beaucoup de questions sur le pourquoi de la souffrance et sur l'attitude de Jésus, mais pourtant, face à cette tempête, qu'est-ce qu'on voit dans le texte? On voit que Jésus vient à leur rencontre en marchant sur l'eau. Même quand l'orage gronde sur nos vies, Jésus n'est jamais bien loin, mes frères et sœurs. Et même c'est l'occasion pour lui de s'approcher, et pas de n'importe quelle manière. Il vient sur l'eau. En cela, il nous montre qu'il est Dieu. Véritable manifestation de la divinité, aussi intense que la transfiguration. Là, nous sommes devant une réalité extraordinaire. Mais ce qui est encore plus étonnant, c'est que quand la détresse est là, Jésus, Dieu fait homme, est là. Et même si on ne le voit pas encore, les disciples ne sont pas encore, l'ont pas encore vu, et nos épreuves nous touchent parfois tellement qu'on n'arrive pas à penser à lui. Pourtant, il est déjà présent par sa toute-puissance, sans qu'un mot n'ait encore sorti de sa bouche. Aujourd'hui, vous souffrez peut-être d'un mal intérieur silencieux comme la dépression, pensant que peut-être Jésus est absent de votre vie, peut-être trop absorbé et pas tellement compréhensible par le mal sur lequel vous êtes focalisé. Pourtant, sans peut-être encore que vous le sachiez, Jésus est là, déjà. Il est là comme il est en train d'être là avec ses disciples. À proximité de Jésus, au lieu d'une présence rassurante, au début, les terrifie. Ainsi, la présence de cet homme sur l'eau, c'est comme est loin de les apaiser, mais elle extériorise même toutes les craintes qu'ils ont peut-être accumulées. Et là, ils se disent, ça y est, c'est pas possible. Un événement supplémentaire. Heureusement, Jésus ne laisse pas trop perdurer le suspense. Et il leur dit, et c'est au cœur de notre texte, « Rassurez-vous, c'est moi. Je suis c'est moi. Et vous savez que pour un juif, ça résonne de toutes ces harmonies comme une mélodie qu'on entend. C'est moi. C'est la traduction de moi, je suis. Vous savez, Moïse, dans le buisson ardent, Dieu s'était révélé comme moi, je suis, vous envoie. C'est le nom, mais de Dieu. Et c'est Jésus qui le reprend à son compte. Jésus, c'est Dieu lui-même. Alors vous pourriez nous dire, ah mais rien de nouveau, mais là, il faut comprendre que les disciples sont en train de découvrir qui est cet homme. Et là, Jésus leur dit, c'est moi. Jésus a le pouvoir sur la mer et ce n'est pas étonnant s'il est Dieu. Jésus apparaît auprès de ceux qui en ont le plus besoin à cet instant, en tant que détenteur d'un pouvoir inimaginable sur les événements. Face à la présence de Jésus, la peur, alors, n'est plus justifiée. Le pourquoi de la souffrance est même moins important. Les disciples sont rassurés. Le problème est peut-être sur le point d'être résolu. Ainsi, quand nous souffrons, l'essentiel n'est pas forcément de savoir pourquoi. L'essentiel est d'être rassuré que nous sommes dans la main d'un Dieu tout-puissant, pleinement bon. Merci beaucoup. Un peu comme un automobiliste, victime d'une grave collision. Il peut se poser la question de savoir comment l'accident s'est produit ou qui est responsable, qui a été témoin, qui sera pris lors du procès ou du tribunal qui jugera cette affaire. Tout cela n'est pas sans intérêt. Mais ce qui lui importe avant tout, c'est qu'une ambulance arrive le plus rapidement possible et qu'un chirurgien puisse l'opérer le plus rapidement possible. Les meilleures infos sur les causes de nos souffrances ne nous avancent pas au fond beaucoup sur la souffrance. Ce qui doit surtout nous préoccuper, c'est comment nous pourrons en être délivrés. Et pour cela, l'essentiel est de savoir que nous sommes dans la main puissante, sage et bienfaisante du Créateur, du « c'est moi », Jésus. Même les chirurgiens, les meilleurs, sont faillibles et ne peuvent pas toujours sauver leurs patients. Mais le Seigneur, Jésus, intervient à coup sûr et ne connaît aucun échec. Pour Louis, sa principale délivrance a été d'avoir été sauvé par Dieu. Il a expérimenté son salut et une paix profonde malgré une maladie terrible. La présence de Jésus à ses côtés n'a pas enlevé sa souffrance physique. Mais par contre, il a découvert une paix profonde. D'ailleurs, dans notre texte, Pierre est le modèle. On peut dire de ce type d'intervention, le modèle du disciple par excellence. Et on l'aime parce qu'il nous ressemble tellement avec ses réussites et ses échecs. Pourquoi Pierre d'ailleurs veut participer à ce miracle? Est-ce que ça n'est rien d'autre que de l'impulsivité ou le désir de faire quelque chose d'extrêmement passionnant, vivre une expérience unique? Ou peut-être plus simplement le fait de sortir de ce lieu de tourment que fut cette barque, et dans laquelle cela fait bien trop longtemps qu'il s'y trouve. Nous ne le ferons jamais parce que le texte ne nous dit pas, mais Jésus, étonnamment, le lui permet bien. Il ne le reprend même pas, même si peut-être que il y a une formation dans ce vient. Alors l'impossible devient possible seulement par le pouvoir de Jésus. Pierre se met à marcher sur l'eau. La demande de Pierre est basée sur la foi et Jésus l'honore, mais en la testant. Et là, après avoir commencé à marcher, Pierre se met à sombrer. Son manque de foi est dû à un manque de concentration. Il s'est distrait par le vent violent. Son esprit est affecté par les circonstances et plus que par la foi en la puissance de Jésus. Et une nouvelle fois, la peur le saisit. Et donc Pierre est à la fois ce modèle de foi et d'absence de foi. Et c'est en ce sens qu'il nous ressemble. Et alors il commence à sombrer et crie au désespoir, « Seigneur, sauve-moi !» Le même cri qu'avait lancé l'ensemble des disciples quelques mois avant. « Seigneur, sauve-nous !» Au moment où nos besoins sont les plus criants, il n'y a qu'un cri, mes frères et sœurs, il n'y a qu'un cri. Quand on ne le connaît pas encore, il n'y a qu'un cri. Tout comme il n'y a qu'un seul et une seule source de salut. Pierre, en sortant de la barque, en exerçant sa foi, croyait sans doute que ça allait durer. Il pensait peut-être qu'il avait fait le plus dur. Pourtant, dans le même temps, il a peut-être oublié que sa foi était bien faible et qu'elle ne reposait que sur la parole de Jésus. La foi n'est pas une affection stable chez le croyant. La preuve chez Pierre. Il démarre avec une belle foi et il finit en manquant. Je connais ce père de famille qui a un enfant malade. Une maladie incurable. Beaucoup de prières sont montées vers Dieu pour la guérison de cet enfant. Et pendant tout un temps, cet enfant n'a pas eu de maladie, n'a pas été touché par cette maladie, n'a pas eu les effets de cette maladie. C'était un vrai miracle. Pourtant, quand ses parents ont parfois tendance à oublier sa maladie, celle-ci revient. Et elle fait sombrer, comme Pierre, un peu, dans le doute. C'est alors que nous reprenons conscience de la fragilité de l'existence. Et qu'il peut crier vers Dieu une nouvelle fois pour que Dieu le secoure. Bien des chrétiens se trompent en imaginant que leur vie chrétienne ne fait que commencer par la foi seule. Non, la vie chrétienne doit continuer par la foi. Le seul combat que les chrétiens ont à mener est le combat de la foi ou le combat contre l'incrédulité. Comme Pierre l'a expérimenté. Mais Jésus répond à ce cri. Il répond en tendant la main, comme il a déjà tendu la main à un malade dans Matthieu quelques mois avant. Pierre sera le seul à avoir expérimenté parmi les disciples à cet instant le secours de Jésus dans la détresse. Même si Pierre est réprimandé, Pierre est néanmoins sauvé. Jésus veut nous délivrer de nos doutes qui prennent parfois racine quand dans nos vies l'inquiétude, l'impatience et la souffrance rejaillissent bien souvent dans bien des domaines de nos vies. Criez à Jésus alors. Faites comme David l'a fait quand il a crié vers Dieu. On le voit dans les psaumes. Criez comme Pierre a crié. Faites comme tous les croyants de tous les temps, criez vers Dieu. sans parole cette fois, quand Jésus entre dans la barque, le vent s'arrête. Vous verrez des miracles dans nos vies, dans vos vies, dans vos relations brisées, si vous criez vers Dieu. Cette scène de sauvetage découvre ce que le Fils fera quelques mois plus tard, non plus seulement pour Pierre, mais pour l'ensemble des hommes qui croient en lui. Il est venu, on l'a rappelé, il est venu en personne se charger de nos douleurs, de nos péchés, afin de nous en délivrer. À la croix du calvaire, là où le chemin qu'il a commencé à arpenter, on le voit même dans notre texte comme en filigrane, nous avons la réponse définitive à la souffrance humaine. Non seulement le Seigneur connaît et limite souverainement nos épreuves, mais non seulement il promet de nous en libérer et il nous assure qu'il prend part personnellement. Il a plongé plus profondément dans le gouffre que nous ne pourrons jamais y descendre. Il a porté nos souffrances, dit un texte de l'Ancien Testament. Il s'est chargé de nos douleurs. Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous pouvons être guéris. À la lumière de la croix et du tombeau vide, nous pouvons laisser tomber toutes nos objections et accepter nos malheurs. Comme les disciples, après cette délivrance extraordinaire, nous pouvons adorer et conclure par une confession similaire à ses disciples. Tu es vraiment le Fils de Dieu. Et même si les disciples sont loin d'appréhender ce que le Fils de Dieu veut dire, ils confessent leur foi. Nous pouvons laisser tomber nos peurs, nos échecs, nos pourquoi, pour accepter ce cadeau immense de la délivrance, de la réconciliation que Jésus veut opérer en chacun. Son amour pour nous et pour tous les hommes dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Nous pouvons donc tout autant que Pierre être convaincus qu'à travers toutes les tempêtes et les ténèbres, le Seigneur nous mène vers la parfaite joie, vers le parfait repos, vers le lieu de la cité céleste, nous dit l'Apocalypse, où il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu, où dans la présence de Dieu Tout-Puissant, une joie éternelle couronnera notre vie. Je vous invite à la prière. Nous sommes touchés, Père éternel, par cette œuvre que tu as faite. Nous sommes troublés tant de fois par la souffrance qui nous atteint, qui nous touche, qui nous blesse, qui nous affecte. Mais toujours à nouveau, nous expérimentons ta main tendue de salut. Une main qui nous donne aussi l'assurance d'une espérance glorieuse parce que tu es ressuscité et que tu as vaincu la mort par laquelle tu nous as accordé le salut et tu nous as ouvert une espérance où la souffrance ne sera plus. Comme Louis, nous sommes reconnaissants de ta présence parmi nos détresses, parmi nos épreuves. Je te prie, Père éternel, que vraiment personne ne puisse partir sans le secours de cette main qui vient de toi. Amen.